Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Alors aujourd'hui, Lecture en tête à tête reçoit Joël Kerouanton pour une émission un peu spéciale, puisqu'elle a lieu en public à la bibliothèque Albert Legendre. Bonjour Joël.
Bonjour.
Alors Joël, tu es auteur, tu as une douzaine d'ouvrages à ton actif, le premier a été publié en 2004. Tu m'interromps si je me trompe. Tu es directeur artistique pour la coopérative Ose et tu organises des ateliers d'écriture comme celui qui t'amène à Laval ce week-end. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai lu que tu n'étais pas un élève passionné à l'école. Alors comment est-ce qu'on devient élève pas captivé à auteur, chef d'orchestre d'atelier et plein d'autres choses? Déjà, première question piège.
Ce qui me plaît dans les entretiens, c'est que on pose toujours des questions qu'on m'a jamais posées, et celle-là, de cette façon-là, ne m'a jamais été posée. Du coup, c'est intéressant parce que ça nécessite de réfléchir et de revenir un peu sur son parcours.
Ouais, c'est important ton parcours.
Je répondrai deux choses. La première, c'est j'en sais rien. Et la deuxième, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est comment faire face à l'ennui. L'ennui au sens d'événements qui se répètent, mais aussi d'être dans une organisation sociale et de ne pas être considéré comme un sujet et à l'école. Mm-hmm. Je ne me sentais pas considéré comme un sujet au sens de quelqu'un qui développait un imaginaire, par exemple, au sens de quelqu'un qui avait des choses à dire, et au sens de quelqu'un qui ressentait avoir des choses à dire, mais qui n'a pas trouvé les conditions de la liberté pour pouvoir le faire. Si bien que j'ai pas trouvé du tout ma place, et quand je suis sorti de l'école, toute ma question, mais c'est la question de ma vie, c'est quelle place j'ai envie de faire, enfin quelle place j'ai envie de prendre pour pouvoir m'exprimer avec la liberté maximum.
Ouais, ça me semblait intéressant en fait cette question, parce que on va y revenir, mais effectivement la forme de tes ouvrages, de tes ateliers, on sent qu'il y a quand même cette question là en fait. De trouver la place et d'être un vrai sujet, d'être actif, d'être entendu. Voilà. Donc en fait, pas besoin d'être... Alors je mets entre guillemets parce que bon élève ou en tout cas élève sage pour devenir un écrivain ou travailler dans la culture, c'est pas une nécessité en fait, loin de là.
Non, du tout. Je suis tombé récemment sur mon bulletin de cinquième.
Ah.
C'était sincèrement une catastrophe, mais une catastrophe pour moi puisqu'en fait, j'avais deux choses. J'avais des notes qui dépassaient pas les 7 sur 20 avec des remarques de professeurs qui était catégorique sur le fait que je ferais jamais rien de ma vie. Et donc, c'est attristant pour moi-même, bien sûr, mais c'était aussi attristant pour la posture de l'école vis-à-vis, justement, des sujets.
Mmh.
Et donc, quand je rencontre des gens qui ont eu des parcours scolaires, j'ai aussi des enfants qui ont été confrontés à ça, c'est-à-dire ce rapport presque d'humiliation, en fait, qui peut, justement, assigner à vie quelqu'un à un échec. Ça m'attriste. Parce qu'en fait, je découvre encore, et les ateliers qu'on explore ici pendant 3 jours cherchent à justement créer ces conditions de l'émergence d'un imaginaire insoupçonné chez chacun.
Alors, j'ai une petite question, je vais dire un peu bidon, mais qui nous intéresse beaucoup à Lecture en tête. Alors ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de développer la réponse, mais est-ce que tu étais bon en orthographe?
Non.
Ah, voilà, merci, c'est exactement ce que je voulais entendre.
Non, mais j'ai découvert petit à petit qu'en lisant des livres, en fait, il y a des choses qui progressent.
Mmh.
Et la deuxième chose que j'ai découvert, c'est qu'en en se faisant éditer à compte d'éditeur, on travaille avec des lecteurs correcteurs ou des lectrices correctrices qui, justement, questionnent chaque phrase et interrogent la bonne orthographe. Et si c'est pas la bonne, elle peut faire poésie. La faute d'orthographe peut faire poésie, mais on a au moins conscience, en fait, de son écriture. Mais du coup, il y a un duo dans l'écriture qui se passe à un moment donné, avant la publication, et qui est passionnant. Et je le fais encore tout le temps, et j'apprends encore, quoi. Mais je m'en fous, mais j'apprends.
Oui.
Ouais.
Très bien. Alors, quand on arrive sur ton site, on est accueilli par cette phrase, ouvrez les guillemets, « maintien volontaire d'une position bizarre ». Alors, c'est tiré du DSM-3, qui est un ouvrage médical qui recense les troubles mentaux, alors sur lequel tu as travaillé, toi, sur ton ouvrage « Troubles 307.23 ». Alors, vraiment, c'est bienvenue aux visiteurs. Alors, c'est pas anodin d'accueillir quand même des visiteurs par cette phrase. Est-ce que toi, tu cultives la bizarrerie? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, je vais mettre cette phrase-là pour accueillir les gens, voilà, plus simplement.
Ou c'est plutôt la bizarrerie qui me cultive.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'antre entre les cases, l'antre d'une discussion, les silences, raconte. Et j'ai beaucoup travaillé des personnes en situation de handicap, notamment autistes, qui sont entre les catégories, qui sont non catégorisables, parce que même dans le champ autistique, on n'arrive pas à définir l'autisme. Et d'ailleurs, beaucoup de chercheurs et de professions médicales s'engueulent sur ces questions-là de définition. Et donc, ça m'intéresse beaucoup quand, justement, ce n'est pas définissable.
C'est ça, pas dans les cases.
Parce que c'est là que la littérature a à dire. Mais pour que la littérature existe, et l'écriture créative notamment, y a la question ou la possibilité de s'inspirer de documents. Et je suis allé chercher un document qui s'appelle le DSM-3, qui date de 1950-60, et qui tente de catégoriser les maladies humaines, mentales notamment. Et en lisant ce document qui datait à l'époque de 40 ans, beaucoup de définitions des maladies humaines n'existaient plus au moment où je les lisais. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, l'homosexualité était une maladie soignable.
Ah oui.
Et au moment où moi je lisais ça, bien évidemment que c'était un moment d'ailleurs très proche de la loi en fait, qui permettait par exemple aux personnes de même sexe de se marier. Et donc j'ai découvert que la folie était catégorisée différemment suivant les époques. J'ai découvert que est fou celui qui est dit fou par quelqu'un d'autre. Et donc je me suis amusé avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit le DSM-3. Je l'ai réécrit totalement en extrayant les fragments et en les agençant à ma façon et en annonçant au lecteur avant la lecture de 50 définitions du DSM-3, en annonçant que si 4 ou 5 définitions pouvaient lui correspondre, c'est qu'il était catégorisé comme fou.
Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait on est tous un peu fous, quoi.
Alors, on est tous un peu fous, mais on peut jouer avec ça. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre là c'est que j'ai essayé de faire en sorte que ces définitions de la folie qui dataient de 1950 deviennent poésie. Et c'est devenu un long poème dont chaque strophe comportait une seule phrase dans une page blanche. Donc la question que je me suis posée, c'est effectivement comment ces problèmes de catégorisation pouvaient nous amener à en jouer et à faire de la poésie.
Alors pour le coup, rien n'est figé dans ton travail, jamais en fait. Hein, on voit que c'est ça, on sort des cases, on fait des pas de côté. Et c'est l'expérimentation qui est le mode opératoire privilégié. Alors c'est vrai que pour le coup, quand on regarde tous tes différents ouvrages, on trouve c'est des boîtes livres, on a des écritures promenades, des romans dansés, tu fais référence à des livres, je trouvais ça drôle, rares, fun et fous, c'est rigolo, avec des écrivains turbulents, des écrivains médiateurs, donc on est vraiment dans un foisonnement. Et puis aussi, il y a la drôlerie, il y a cette dimension-là aussi de « il faut s'amuser », quoi. Est-ce que tu as la volonté de faire finalement de la création, la formule est un peu facile, mais de la création une fête, quoi, cette dimension là joyeuse?
Mais c'est un angle possible pour aborder les sujets les plus dramatiques. Et ça, je me suis beaucoup inspiré. Je suis pas quelqu'un qui peut faire des blagues comme ça en soirée, par exemple. Mais dans une écriture, il m'arrive de trouver des formes humoristiques et légères et d'amuser le lecteur. Et donc j'ai découvert par exemple que je pouvais développer ce qu'on peut appeler de l'humour dans l'écriture de création, ce que je ne parviens pas toujours à développer dans la vie. Et du coup, ça c'était intéressant de développer des formes qui pouvaient faire sourire, mais qui pouvaient être parfois très très difficiles. Donc ça m'est arrivé de parler de la mort, du suicide, de l'inceste, par des formes littéraires qui prêtaient à sourire, mais à sourire jaune.
Oui, voilà, bien sûr.
Bien sûr, parce que ça permet au lecteur de se mettre dans la peau du personnage, d'essayer de comprendre, d'essayer de s'interroger sur en quoi ça lui parle, en quoi ça le concerne. Mais ça donne des formes littéraires qui sont attrapables et qui permettent au lecteur de suivre, j'espère, le plus loin possible le propos, quoi.
Oui, puis de prendre une certaine distance, finalement, par rapport à la difficulté du propos.
Ouais, voilà. Bien sûr. Donc oui, c'est quelque chose qui est, mais c'est pas quelque chose qui est une attention première. Mais le jeu de la langue permet ça. Donc c'est ça que je cherche, quoi. Par le détournement, par le. Enfin, voilà.
Ouais, donc c'est vrai que pour le coup, alors quand je dis la création une fête, non, en fait c'est pas tellement ça. En fait, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser, mais c'est pas l'objectif en fait. C'est juste c'est un biais finalement.
Mais ça peut être une fête au sens où, par exemple, le livre Mythe, qui est un roman dansé, je me suis inspiré d'une centaine de livres. C'est-à-dire c'était la fête pour moi de la lecture. C'est-à-dire que je suis allé piller des extraits dans une centaine d'ouvrages. C'est-à-dire que j'avais ma pile de livres constamment avec moi pendant que j'écrivais et j'allais prendre des morceaux. Que je mettais en fusion de ma propre langue, quoi. Et quand on lisait ça, quand on lisait mon texte, on ne pouvait pas trop deviner d'où ça venait. Mais je trouvais un moyen à la fin pour dire les sources. Et là, je me suis beaucoup inspiré de Pérec, La vie mode d'emploi. J'ai découvert à la fin du livre qui remerciait une liste d'auteurs de les avoir légèrement modifiés, quoi. Et donc, j'ai découvert la liberté totale qu'on a d'aller emprunter des extraits et d'en faire sien. Et ça, ça a été une fête, vraiment. Ça a vraiment été une fête, c'est-à-dire presque jouissive, quoi. D'aller prendre des morceaux de texte et dans...
Bah de jouer avec quand même.
De jouer avec. Non, pour ça, c'est une fête. C'est pour ça que c'est à la fois une fête et c'est à la fois une sueur, parce que c'est long. C'est long. Ça peut durer 10 ans. Là, ce livre-là, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Mais c'est quand même... Il y a quelque chose d'excitant de pouvoir aller chercher des phrases d'auteur et de les faire siennes. Ça, c'est quelque chose qui est très fort.
Oui, de l'appropriation.
Ça, c'est très fort.
C'est jouissif, en fait.
Ah ouais, ça, c'est très, très jouissif, ouais. Parce que du coup, c'est vraiment s'essayer. J'aime bien cette image-là de mettre un pull au vert. Enfin, s'essayer dans notre costume, quoi, pour voir ce que ça fait. Et de trouver sa langue qui se développe en dehors de son intention première, en dehors de soi-même. Ça, c'est très beau. Mais du coup, ça suppose effectivement accepter que des fois, ce qui sort est une langue un peu étrangère à soi. Et pour moi, c'est un indicateur. Arnaud Bertinat en parle souvent de ça. C'est-à-dire, à partir du moment où le texte qui sort ne ressemble pas à ce que tu écris d'habitude, paraître presque une langue étrangère par rapport à ce que tu as l'habitude d'écrire, ça commence à être bon signe.
Un petit conseil d'écrivain.
ça commence à être bon signe au sens où peut-être que là, le texte a quelque chance de fonctionner. Ça revient à notre première discussion, la première question sur l'ennui.
Oui.
C'est-à-dire, quand je commence à m'ennuyer à lire mes propres textes, ce n'est pas du tout bon signe.
Oui, il y a la nécessité de renouveler finalement la langue, l'exercice. Oui,
ouais. Et à chaque livre, bien évidemment. À chaque livre, sa structure, mais aussi sa langue. Voilà. Mais pour moi, la découverte d'un style en fait, qui m'est étranger dans l'écriture d'un livre, ça, c'est quelque chose qui est à la fois impressionnant, mais qui est aussi désolant, parce que parfois, on n'y arrive pas.
Non, mais c'est ça. Voilà, il faut prendre le risque, quoi.
Oui.
Voilà, ouais. On va s'arrêter sur ce risque et puis on va poursuivre la fête avec le titre « Lemon » que tu as choisi de Bachar Mar Khalife. C'est comme ça je le prononce bien.
Oui.
طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بيحجره يا ليل القمر لما حبيبي زار يميني
nous sommes de retour dans la bibliothèque Albert Legendre avec Joël Kerwanton. Alors, on a parlé de lutter contre l'ennui, on a parlé de fête, et sans amis, la fête est moins folle, c'est facile. Ton travail, c'est presque toujours un travail collaboratif, quasiment, hein, tout le temps d'ailleurs, je pense. Tu travailles avec des designers, des graphistes, danseurs, chorégraphes, il y a des écoliers. Tu es intervenu aussi dans un CAT, CAT c'est Centre d'aide par le travail. Tu t'entoures de complices, comme aujourd'hui, avec Agnès et Salma. Donc il n'y a pas de hiérarchie, chacun apporte sa pierre à l'édifice dans ton travail. Alors être le plus inclusif possible, bon c'est un mot à la mode, hein, mais clairement quand même on a du boulot à faire à ce niveau-là, et en particulier dans la culture, quoi qu'on en dise. Est-ce que c'est ce constat-là qui t'a donné envie de... Enfin qui a donné naissance à ces ateliers sous cette forme-là, parce qu'on va en parler. Ces ateliers d'écriture.
Alors, je ne sais pas si je l'énoncerai de manière politique comme ça, puisque ce n'était pas comme ça que j'ai énoncé au tout départ. Au tout départ, j'ai commencé à écrire un récit d'expérience dans un ESAT artistique, une troupe de théâtre menée, portée par, une, par des personnes handicapées. Et il se trouve qu'à l'époque, je faisais fonction de chef de service éducatif. J'étais le seul éducateur, en fait, à coordonner cette troupe. Et j'ai commencé à écrire un livre sur notre aventure. Et je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens d'écrire ce livre si je ne partageais pas mes textes avec les personnes qui étaient au centre de mon récit. Mmh. Et donc petit à petit, j'ai partagé ces textes-là avec eux le matin, au début d'atelier. Je leur disais, si vous voulez, là je vous lis un extrait d'un texte que j'ai écrit sur notre tournée de hier. Donc ils adoraient ça. Il et elle, parfois ne savaient pas lire, parfois ne savaient pas écrire, mais ils étaient formidablement critiques sur mes textes.
Ah oui.
Et donc j'ai eu des retours, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, par des retours de personnes qui ne savaient pas lire et écrire. Et mes textes se sont affinés comme ça, ont été poncés, et j'ai trouvé un éditeur après aux éditions RS, voilà. Et donc là après j'ai travaillé avec une correctrice pro, etc. Mmh. Mais j'ai découvert que l'interlocution avec des personnes qui n'avaient pas forcément de légitimité était pour moi très porteuse. Je ne dis pas que c'est ce que chacun peut faire, mais... Pour moi, c'était très efficace. Et donc, petit à petit, je me suis entouré de personnes, effectivement, qui pouvaient être lecteurs de mes textes, ou bien de personnes et qui n'avaient pas forcément la légitimité pour l'être, ou bien j'ai aussi collecté des paroles de personnes de différents endroits pour alimenter mes propres textes, quoi. Et j'aimais bien, justement, ces différentes grains de paroles, ces différents grains de pensée. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré Philippe, qui est un lecteur incroyable, puisqu'en fait, il me fait remarquer des choses dans mon propre texte. Parce que je lui ai fait lire un extrait d'un livre que je prépare pour la fin d'année 2024. Mm-hmm. Il m'a fait remarquer quelques séquences, en fait, d'écriture qui lui faisaient penser à des éléments que moi, je n'avais pas imaginé. Hein. Voilà.
Donc, ouais, c'est enrichir du regard de l'autre,
oui,
en fait.
C'est
finalement,
ça.
Le travail... Tout
oui,
le temps, en fait,
c'est
qui
ça.
Permet de se renouveler, de
oui.
retravailler,
oui.
en fait.
Alors après, c'est un travail avec un éditeur collectif, quelque part.
Oui.
Mais après, il y a un travail avec l'éditeur qui va aussi, voilà, qui continue. Mmh. Mais cette phase-là, d'être lu par des personnes de différents endroits dans les ateliers, dans le même mouvement où moi, j'accompagne les gens, c'est-à-dire, je vous parlais de Philippe, c'est-à-dire, on a fait des choses ensemble, il a fait des choses, et puis... Il a aussi un œil sur un texte que j'ai pu produire. Et donc, j'aime bien cette complicité-là. Oui, c'est très fort. Et du coup, ça revient à cette expérience un peu originelle où j'ai commencé à écrire et à être lu par des personnes en fait, qui ne savaient quasi pas lire ou écrire.
Donc, pour le coup, plus précisément, là, on va s'arrêter sur cet atelier qui t'amène à Laval, qui s'intitule « Écrire dans la Bible ». Alors, en fait, c'est une échappée, une extension de ton projet « Écrire dans la ville » à Saint-Nazaire. Alors c'est un atelier d'écriture, pour le coup, alors, je trouve un peu fou, alors peut-être le terme est un petit peu excessif, mais pour le coup on est quand même, on sort du format habituel en fait des ateliers d'écriture avec un horaire précis, avec une thématique, tu te dégages finalement de toutes ces contraintes-là pour faire quelque chose de très très différent. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui se passe ici ? Quand même très à ton image, je trouve, pour le coup,
oui,
pour
alors,
avoir vu l'organisation.
Je vais faire un détour, un peu comme d'habitude, je vais faire un détour par d'où ça vient tout ça. Et en fait, ça vient d'un laboratoire de création littéraire que j'ai animé pendant 3 ans et qui s'est déroulé sur un week-end complet de 16h le samedi à 16h le dimanche avec des amis de l'écriture. Et il y a 3-4 de mes livres qui ont été discutés dans ce cadre-là. Et pareil, j'ai accompagné aussi l'écriture de d'autres livres, de d'autres amis. Et je m'étais posé la question, comment ce laboratoire-là peut continuer, puisqu'il s'était arrêté, puisque les amis sont allés très loin, habitaient loin. Comment ce laboratoire-là peut continuer avec les habitants de Saint-Nazaire ? Et ce projet Écrire dans la ville, il est venu de ça. Il est venu de, justement de ce constat qu'il nous faut un temps long pour se lire. Il nous faut un temps long pour écrire. Et qu'on n'a jamais vu des livres s'écrire en une heure.
C'est sûr.
Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai moi-même été participant d'ateliers d'écriture à un moment donné de ma vie d'écrivain. Et j'étais en grande difficulté. Puisque quand j'avais une consigne, je n'arrivais pas à écrire un texte en 20 minutes. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre où j'ai mis 10 ans à écrire. C'est-à-dire, il me faut du temps, quoi. Et donc, je me suis posé la question de ces formes d'atelier. Et écrire dans la Bible, effectivement, c'est la prolongation de Écrire dans la ville à Saint-Nazaire, où on propose, en fait, à des personnes de venir du matin au soir, même le midi s'ils veulent, de venir avant le marché et après le marché, de venir après le travail, de venir à un moment où ils peuvent, et de revenir une troisième fois pour justement, ou de passer la journée complète. Pour écrire, réécrire, lire, parfois ne rien faire, mais être seul ensemble.
Oui.
Seul ensemble, et puis parfois de chercher son lecteur ou sa lectrice idéale. Puisque la grande question, tout à l'heure je vous ai parlé de lecteurs idéaux que j'avais trouvé au départ, vous vous souvenez ? Et c'est encore la grande question que je me pose et que chacun, il me semble, se pose, c'est à qui je m'adresse quand j'écris. Et trouver quelqu'un à qui on s'adresse quand on écrit, c'est, il me semble, la chose la plus précieuse pour développer l'énergie de l'écriture. Et l'atelier ici cherche ça.
Oui, mais est-ce qu'on le trouve finalement, ce lecteur idéal, ou finalement on le trouve à travers plusieurs lecteurs, plusieurs écrivains, enfin, c'est, on se l'imagine finalement, c'est une sorte de, on assemble finalement les différentes personnalités et puis on arrive à trouver finalement un lecteur idéal, mais puis c'est peut-être mouvant en plus, c'est des choses qui changent,
mouvant.
C'est jamais le même.
Oui,
quoi.
En fait c'est une quête, donc on ne trouve jamais déjà ce qu'on cherche, et ce qui est intéressant c'est qu'il se passe autre chose, mais ça peut être son voisin. Ça peut être nous, hein, nous, Agnès Guy avec qui j'anime là les trois jours, ou Salma Charkaoui, ou moi-même, mais ça peut être son voisin, ou ça peut être effectivement quelqu'un de passage. Faisons confiance à l'aléatoire, faisons confiance aux circonstances et au contexte. Et donc tout l'enjeu de cet atelier, c'est de créer une ambiance. Et une ambiance, c'est vague et flou, mais c'est aussi très précis. C'est une scénographie d'un espace. Où est-ce qu'on s'assoit? Où sont les livres? Où se place l'espace cafétéria, où est-ce qu'on peut ne rien faire, où est-ce qu'on peut rêvasser, où est-ce qu'on peut écrire ou réécrire, et comment on se dispose les uns aux autres, quelles relations se tissent entre eux.
Oui, parce que tu parlais de confiance, c'est vraiment peut-être la première chose que toi t'essayes d'instaurer, la confiance, effectivement, alors de s'autoriser à ne rien faire, à lire, à rêver, à prendre un café, finalement on fait plein de trucs. On n'écrit pas forcément.
Non, mais voilà. Ça, c'est peut-être
mais
la définition.
Mais on instaure une confiance qui permet ensuite aussi de décomplexer, parce que c'est pas facile de se mettre à écrire et puis de partager ses écrits. C'est quand même quelque chose de compliqué, quand même.
C'est oui, c'est compliqué parce qu'on se risque au regard de l'autre sur un texte qui parfois nous est proche, intime. Et est-ce qu'on s'autorise à avoir un regard sur ce texte qui nous a fait, enfin, qui est important pour nous? Alors, du coup, peut-être pour définir l'atelier, on pourrait juste reprendre, et c'est pour ça, on pourrait reprendre ce que fait un écrivain dans la vie. Un écrivain dans la vie, il écrit, il lit, il discute, il fait salon, il prend un thé, un café, parfois il ne fait rien. Et c'est exactement ce qu'on fait là.
C'est une belle, j'allais dire une belle conclusion, mais non, c'est pas une conclusion, puisque tu vas nous lire un petit extrait, tu as accepté de lire un extrait, je vais te laisser présenter le roman. Si c'est un roman d'ailleurs, c'est peut-être pas un roman.
Alors, bah voilà, c'est un livre hors genre.
Évidemment.
Qu'on pourrait dire peut-être
la poésie.
De Élodie Petit. C'est une autrice que j'ai découverte cet été. Une autrice, punk, au sens où elle soulève des questions, mais elle les soulève de manière très, très belle. Et son livre s'appelle Fiévreuse plébienne. Et je vais vous lire un texte qui est au centre et qui s'appelle Manifeste de la langue bâtarde. La langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue avec un langage de la rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire, dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception, elle est. Elle parle trop fort, elle ne s'arrime pas là où il faut, elle se contrefout des règles, Elle s'invente au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle rappe, elle écorche. Sa poésie naît du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétaux d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable, elle est incorrecte. Elle n'est pas là pour plaire aux hommes, à la bonne société, aux bien éduqués, aux lettres françaises, à la rentrée littéraire. Elle est libre de ce à quoi elle ne correspond pas. Elle a fui le vieux monde. Elle habite vos ruines. Elle est fragile, discontinue. Elle vit dans des appartements mal chauffés. Elle n'a pas peur d'être dramatique, drama queen, lyrique, dans ses larmes, éliaque, à l'amoureux, saphique, mielleuse, ouvertement érotique, pornographique et gênante. Elle n'a pas de trame narrative directe, évidente. Elle raconte brutalement ce qu'elle traverse. Elle colle au réel, elle a les mains moites. Elle dérange, par sa franchise et son manque de politesse, elle n'est pas là pour être gentille. Elle n'est pas conciliante, elle est transpédéguine, elle est une voix minoritaire, elle est grandiloquente. De là d'où elle vient, elle ouvre sa gueule, elle a conscience des trajectoires, elle sait toujours d'où elle parle. Elle dénonce son patron, elle est contre le salariat, elle est anticapitaliste. Elle boit trop, elle féminise tout, elle aime s'entourer d'autres bâtardes. Elle mouille sa culotte, elle tremble la tienne, elle bouffe à tous les râteliers. Elle est féministe et la ramène dès qu'il y a du grabuge. Elle est chiante et trouble-faite, elle fait chier. Elle ne mange pas de viande, elle trouble le système bien huilé, hétéro, patriarche. Elle pisse sur vos pompes, elle t'emmerde, elle aime le cul, sale et direct. Elle ne fait pas de concessions. Elle expérimente, elle fanzine, elle répond à son urgence. Elle ne demande pas la permission. Elle est sans précaution, sans filet, sans papa, maman derrière. Elle a un peu trop conscience des classes. Elle est spiritueuse, précaire, instable, dépendante affective. Elle est exigeante, intense, en boucle, anxieuse. Elle est belle parce qu'elle est vraie, simple, directe, touchante, mal agencée. Elle pleure facilement, elle rit aux larmes, elle est psychée. Elle utilise le plagiat. Elle se sert, elle détourne, elle pille, elle suce. Elle a un problème avec la drogue. Elle n'en a jamais assez. Elle en veut toujours plus.
Oh, c'est très beau. Donc l'émission se termine sur ces mots, très beaux et puissants. Merci encore à Joël Kerwanton d'avoir accepté cette invitation. Et nous nous quittons sur le titre Parola, ou Parola, mais je ne dis pas bien, de Donato Dozzi. Voilà, et je laisse Joël retourner à son atelier et à ses écrivains. Merci encore.
Merci.
Ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno. ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero.